chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane, 95.7 Kick.
Maître Bouliane, bon matin.
Bon matin.
On va revenir sur le dossier de l'arrestation musclée du côté de Québec. Beaucoup de réactions hein, depuis que un jeune de race noire a été entre guillemets agressé par des policiers lors d'une arrestation qui s'est soldée par une arrestation donc musclée. C'était pas à la sortie des bars, mais on était quand même avancé dans la soirée. Et là, ben, c'est la classe politique qui réagit. Tout le monde réagit à ça. Et je me pose toujours la même question. Il est-tu trop tôt pour réagir? Parce qu'encore une fois, on n'a pas le contexte derrière cette arrestation-là.
Effectivement, mais ça fait beaucoup de chaleur. Tu sais, hier, Martin McGuire, qui vous parlait de Jeff Molson puis de Marc Bergevin, s'il faut que ton boss aille dans les médias pour te défendre, t'es dans le trouble.
Ça commence mal.
Et là, on a le chef de police, le maire de Québec, la ministre de la Sécurité publique, le premier ministre, entre autres, qui ont tous demandé qu'on fasse la lumière là-dessus. Donc, il va y avoir effectivement une enquête serrée tant des affaires internes du service de police de Québec que du commissaire en déontologie policière qui a également mentionné que vraisemblablement, il allait avoir une enquête en bonne et due forme parce que déjà, avec les éléments préliminaires qu'ils ont, c'est suffisant pour ouvrir une enquête. Sur quoi ça va déboucher? T'as raison de dire, est-ce que c'est trop tôt pour commenter le fond du dossier? Je pense que tout le monde commente la vidéo, beaucoup plus que le fond du dossier.
La vidéo est questionnable. C'est sûr que quand tu regardes l'arrestation, le geste du pied qui garoche la neige, tu te dis « ouais ». Là, c'est peut-être allé fort un peu, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. T'sais, les policiers se sentaient-tu menacés pour mettre autant de pression physique? Je sais, on n'était pas là.
Effectivement. Et il y a un critère qui revient souvent en jurisprudence, autant au niveau de toi puis moi qu'on pourrait plaider une légitime défense dans le cas d'une attaque, comme lorsque vient le temps d'évaluer la force raisonnable, la force nécessaire qui est employée par des policiers qui pourraient être accusés, entre autres, de voies de fait pour avoir utilisé une force excessive. Il faut faire attention de ne pas analyser ça dans le confort, on dit souvent, nous, dans le confort de la salle de cour, dans laquelle on est calme, on prend le temps de décortiquer, ça va un peu trop loin, etc. Il faut se remettre dans le feu de l'action. Des fois, ça se passe très vite. Mm-hmm. Et même dans l'utilisation de la force raisonnable, entre autres dans un dossier de légitime défense, des fois, ça peut déborder, mais il faut se remettre, comme je le dis, dans le contexte où là, tout ça se passe vite. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y avait une présence potentielle d'une arme? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient, comme tu le dis, fait des menaces? On verra. Mais je dois dire qu'à ce stade-ci, semblerait qu'à tout le moins, la partie où l'homme est monoté au sol, puis qu'il y a d'autres policiers qui interviennent, puis on continue de lui botter de la neige dans le visage, ça regarde très mal.
Ouais.
Donc, assurément qu'il y aura des enquêtes. Est-ce que ça débouchera sur des sanctions disciplinaires? Est-ce que ça débouchera même sur des accusations criminelles et potentiellement sur des condamnations? On le verra. Évidemment qu'on est tôt dans le processus puis qu'il nous manque beaucoup d'informations. Mais à ce stade-ci, ça fait beaucoup de chaleur sur ces policiers-là, minimalement.
Puis ça devient difficile pour des policiers d'intervenir parce que là, évidemment, on les accuse de profilage racial. Est-ce que ça aurait été exactement la même intervention si les individus avaient été blancs? Ça, c'est l'enquête qui va le dire, mais ça met de la pression dans le sens où là, quand on doit intervenir envers une minorité puis qu'on est des blancs, là on met-tu plus de gants blancs? Puis si on met-tu plus de gants blancs, on s'expose-tu davantage à un danger potentiel? Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, peu importe la couleur de sa peau. Tu sais, ça doit être tough.
En fait, la question que j'aimerais savoir de votre part, Maître Bouliane, vous en avez sûrement défendu des gens qui étaient de minorité visible. Aviez-vous l'impression que le traitement du système de justice ou des policiers était différent à votre client par rapport à quelqu'un d'autre?
Le traitement du système judiciaire, je te dirais d'emblée, non. Pas à ma connaissance. Est-ce que dans certaines interventions policières, ça m'est arrivé d'avoir certainement des questionnements, de savoir est-ce que l'intervention, est-ce qu'on a agi plus promptement, ou est-ce qu'on a conclu à des choses, là, justement, souvent on conclut à des gangs de rue immédiatement lorsqu'il y a des personnes de couleur. Et ça m'est arrivé, même dans des dossiers ici, d'avoir à me poser ces questions-là. Pas au point où on est allé en déontologie, où il y a eu des plaintes formelles, mais pour revenir au dossier de Québec, qui est aussi problématique, c'est que présentement, il y avait quand même beaucoup de chaleur et beaucoup de questionnements sur le profilage racial à Québec. Qui a longtemps été, on pensait que c'était un problème essentiellement montréalais, mais depuis Québec, il y avait même des budgets qui ont été débloqués parce que si on se met police de Québec, police de Lévis, là, sont à peu près 1000 policiers. Savez-vous combien il y a de policiers de couleur sur les 1000?
De pas d'en avoir ben, hein?
Zéro.
Ouais.
C'est une statistique qui date de 2020, mais là, les chiffres de police avaient sorti effectivement 1000. les personnes de couleur dans la population à Québec, là, le Grand Québec, c'est 2 point quelques%. Donc, c'est pas non plus surprenant que ça qu'on n'ait pas un nombre de policiers de couleur. Mais de toute façon, ce qui ressort des statistiques, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, même si tu engages des policiers de couleur, même si ton chef de police est de couleur, c'est pas ce qui fait en sorte que ça va diminuer les problématiques de profilage racial. Et à Montréal, on s'est longtemps posé ces questions-là. À Montréal, un homme de race noire a 4 fois plus de chances de se faire arrêter, de se faire interpeller par les policiers qu'un individu de race blanche. 25 % des arrestations, des interpellations sont faites sur des personnes de couleur, or qui sont 10 % de la population. Pour les femmes autochtones, la statistique, c'était 11 fois plus de chances qu'une femme blanche. Donc, il y a des problématiques, effectivement, qui font en sorte qu'il y a plus d'interpellations de personnes qui sont issues de minorités visibles. Sauf que c'est un dossier éminemment complexe. Il ne suffit pas de dire que c'est forcément du profilage parce qu'il y a des situations socio-économiques qui font en sorte qu'évidemment que les policiers vont intervenir sur des jeunes dans Saint-Michel qui se tiennent dans des parcs parce qu'ils restent dans des HLM sur la même densité de population versus Westmont,
ouais.
Où tu as possiblement 100 fois moins de jeunes, puis ils ont tous une cour arrière de la grandeur d'un parc.
Ouais,
donc, effectivement, s'ils traînent moins à l'extérieur, ils se font moins interpeller. C'est sûr que si les policiers se font dire, bon, là, on a beaucoup de plaintes pour des rassemblements de jeunes dans des parcs, etc., les policiers interviennent, puis malheureusement, la force des choses fait en sorte que c'est principalement des jeunes de couleur qui sont là. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des interventions qui visent des personnes de couleur qui augmentent en nombre par la force des choses, par des réalités socio-économiques qui sont étrangères à une problématique de profilage racial également.
Il y a comme deux façons de voir ça aussi, dans le sens où, tu sais, moi, j'ai déjà parlé à des gens racisés qui me disaient, ben, dès que je suis au volant de ma voiture ou dès que je fais quelque chose, je me sens déjà observé. Je me sens déjà en évaluation. Puis t'as, si tu fais quelque chose qui mérite une intervention policière, est-ce que l'intervention est plus forte parce que t'es de couleur ou moins forte? Tu sais, c'est comme deux choses différentes.
Là. Absolument. Mais sur le fait qu'ils sont plus interpellés, ça, c'est prouvé statistiquement. Là. Ça, c'est vrai. Là. Il y a des plaintes sur du profilage du fait qu'ils ont été interpellés simplement parce que c'était une personne de race noire qui était au volant d'un véhicule qui semblait coûter très cher, puis que les policiers voulaient voir si c'était quelqu'un qui pouvait être dans la drogue, etc. Or que ça n'arriverait pas à monsieur blanc de 60 ans qui se promène dans son Cadillac Escalade. Ça, c'est vrai que c'est démontrer. Maintenant, est-ce que les interventions sont plus fortes lorsqu'on a des personnes de couleur? Je suppose que ça doit dépendre aussi du secteur dans lequel arrivent ces interventions-là. Mais il y a aussi, de l'autre côté de la médaille, comme tu l'abordais tout à l'heure, Dominique, c'est qu'il y a un désengagement policier à certains égards, dans le dire non, là, on n'interviendra pas là parce qu'on risque de se mettre dans le trouble sur certains profilages raciaux. Donc, c'est une question complexe. Dans le dossier de Québec, est-ce que la couleur de la peau a à voir dans ce dossier-là? On verra, parce que là, c'était des jeunes qui étaient... C'était un groupe de jeunes qui avaient été expulsés du bord d'Agobert. Les policiers interviennent pour les disperser. Est-ce qu'on a réagi de la même façon si ça avait été 15 blancs qui avaient été là puis qui voulaient pas quitter? C'est ce qu'on verra, mais à brûle pour point, c'est sûr que ça regarde mal parce qu'on voit que c'est des policiers blancs qui sont en train d'intervenir physiquement de façon, selon moi, il y a un débordement dans l'action policière à ce moment-là. Et comme la personne interpellée est un noir, qu'on a relâché un petit peu plus loin. Hein. On l'a embarqué, puis on l'a relâché. Il n'y a aucune accusation, aucun constat d'infraction qui lui a été émis. Mais les policiers, de leur côté, disent « Ben nous, on voulait juste les disperser, puis c'est parce qu'ils ont résisté que tout ça a débordé. » Donc, on verra pour la suite des choses. Il est tôt pour prétendre que c'est dû à leur couleur de la peau, mais assurément que la question se pose.
C'est sûr que quand ils se sont fait dire aussi « Retournez dans vos HLM à Vanier », là...
Ben ça, si c'est vrai...
ça a été rapporté, en tout cas, là...
Ça, si c'est vrai... Il va avoir des sanctions en déontologie policière. C'est pas une infraction criminelle de dire ça, mais assurément que ça va faire en sorte qu'ils vont être amenés en déontologie policière.
C'est pas criminel, mais c'était tous des étudiants de l'Université Laval. Ça paraît mal.
Cette phrase-là, clairement, démontre une certaine mentalité dans laquelle, dans l'intervention, pour nous, c'était de la racaille du bas de la ville. Ouais. Donc ça, ces phrases-là qui pourraient être prononcées démontrent beaucoup plus, justement, un certain profilage racial que l'intervention elle-même qui pourrait être justifiée par autre chose.
Parlons du policier Maxime Gobeil, qui finalement a été blanchi. Là. Ça, c'est celui qui est entré en collision à la suite d'un appel, puis il était au volant d'une voiture banalisée de Lebeau-Mistassini. On s'en rappelle, ça a fait un mort, si ma mémoire est bonne, mais on se demandait est-ce qu'il avait enfreint les règles avec sa voiture banalisée. Au final, non.
Ben, il y a eu 3 morts. C'est une histoire très triste.
C'est une famille, c'est ça.
C'est une famille qui sortait là, d'une entrée, alors que lui répondait à un appel d'urgence et roulait.
Ça en allait un corps, je pense, hein, c'est ça?
Chose comme ça. Ouais. Il arrivait où il allait, là, c'est 3 membres de la même famille. Donc, histoire très triste, évidemment. Il avait été acquitté au criminel parce qu'il y avait eu des participation de conduite dangereuse, entre autres, qui avait été déposée contre lui. Et il n'avait pas été acquitté de façon technique ou du bout des lèvres, là. Le juge ne voyait aucune faute dans le comportement du policier, parce qu'il faut rappeler aux gens, à ce moment-là, il y avait ni plus ni moins qu'un home invasion. Il y a quelqu'un qui appelle, là, il y avait un dossier de violence conjugale, l'homme venait de défoncer la maison. On a un appel d'urgence, il y a des enfants à l'intérieur, là, la femme qui dit qu'elle est victime de violence conjugale. Donc, évidemment, que si on prend 20 minutes pour se rendre, il est possiblement trop tard. Donc, il y a une voiture banalisée, mais il active les gyrophares, il active sa sirène et il roule un petit peu plus du double de la vitesse permise, parce que lui, il répond à un appel d'urgence niveau A ou niveau 1, à tout le moins,
c'est grave.
C'est un danger de mort. Donc, on peut prendre certains risques que s'il n'y a pas de danger de mort, on mettra pas la sécurité des autres en danger. Mais dans ce cas-ci, comme il y a un danger de mort, bon, tout ça pris en considération, tant le juge, en 2018, lors de son acquittement, que là, le comité en déontologie policière sont venus dire qu'il n'y avait pas commis de faute. Ça n'entachait pas sa moralité parce qu'il avait pris le temps d'évaluer le danger, de regarder justement le pour et les contre et qu'il avait agi de la bonne façon dans les circonstances compte tenu du critère de dangerosité sur lequel de l'appel il répondait. Malheureusement, est arrivé un accident qui a causé des morts. Donc, c'est sûr que si on faisait juste l'analyse, finalement, causer 3 morts pour potentiellement sauver un, c'est sûr que si on fait ce calcul-là, mais s'il faut regarder le comportement du policier, et une fois tout ça analysé, il n'y a pas eu de faute qui était commise. Tant le juge l'avait considéré que le.
Bon, c'est correct. Je ne veux pas que les policiers commencent à réfléchir lors des appels d'urgence. Je peux-tu rouler vite? Je roule-tu trop vite?
Non, non, non. Oui.
Rends-toi, là. T'sais.
Oui, Dominique. Je veux que les policiers réfléchissent lors d'un appel d'urgence.
Mais
on se comprend. C'est un appel de niveau 1, il y a une vie en danger.
Et là, tout le monde était.
Et c'est la route régionale.
Exact.
Je veux qu'il roule.
Et là, tous les policiers impliqués, autant ses supérieurs, tout le monde était dit, on avait tous la même vision de la chose, c'est urgent, c'est dangereux, faut s'y rendre. Et lui était dans un véhicule semi-banalisé, mais il y avait quand même sirène, gyrophare, etc.
Sauf que ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est que ça demeure quand même un fusil à une seule cartouche. Puis je m'explique, le gars a pris la bonne décision, a fait ce qu'il devait faire, mais il a fallu attendre 3 ans avant qu'on sache que c'était la bonne décision. Pendant ce temps-là, ce gars-là...
Ah, c'est clair.
Tu sais, je veux dire,
lui, il a subi une accusation criminelle. Il avait été relevé de ses fonctions. A subi un procès criminel, tu sais, dans le coin, dans le haut du lac, là, je veux dire, tout le monde parlait de ça, là, le policier Gobeil, puis c'était du monde qui venait de ce secteur-là aussi, qui était les victimes. Donc, ça a été un chemin de croix qui a duré jusqu'en 2018, son acquittement. Et là, on est encore 3 ans plus tard, dans lequel la déontologie policière dit, ben nous, malgré tout, on va se pencher sur le dossier. Mais ça non plus, c'est pas farfelu, là, que la déontologie, parce que vous pouvez avoir agi en prenant le dossier de Québec. Il n'y a pas d'accusation criminelle ou vous êtes accusé au criminel, puis vous êtes acquitté de voie de fait. Mais vous avez traité ces gens-là de retourner dans le HLM. Bien là, la déontologie policière va dire « Ah, c'est peut-être pas criminel, mais nous, on considère que c'est dérogatoire, puis vous pouvez être sanctionné en déontologie policière sans l'être au criminel. Mmh. » Parce qu'au criminel, ce n'est que les comportements les plus graves qui seraient sanctionnés. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont repenchés sur le dossier. Mais effectivement, on est des années plus tard, et là, lui, enfin, on lui dit qu'il n'a rien commis de faute.
Parce que, tu sais, on parle de désengagement, mais tu sais, le message quasiment que ça envoie, c'est que tu as pris la bonne décision, mon chum, mais tu vas être quand même 3 ans hiatus à savoir si, tu sais.
Effectivement. Ben, c'est la même
ça
chose
donne
que
pas
dans,
le goût de prendre cette décision-là,
dans certaines circonstances, des policiers qui se mouillent, là, c'est-à-dire qu'il y a des policiers qui vont intervenir physiquement, quitte à justement même à utiliser leurs armes, que ce soit le poivre de Cayenne ou éventuellement les armes à feu.
C'est un call qui peut te coûter ta job.
Et il y en a qui vont hésiter à le faire. Surtout à intervenir physiquement, surtout à intervenir à sortir des armes et qui peuvent entraîner justement que...
C'est le désengagement policier, puis ça a été documenté, ça.
Exactement. Malheureusement, c'est aussi l'envers de la médaille dans certaines circonstances.
C'est là où je dis, je veux pas qu'ils se mettent toujours à réfléchir parce que sinon, ils se désengagent, puis là, ils prennent plus les décisions qu'ils devraient prendre. T'sais, à un moment donné, puis là, tu mets la vie des citoyens en danger de manière, je pense, beaucoup plus évidente.
T'as tout à fait raison sur ce point-là.
Peut-être en terminant, écoute, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Marc-Étienne Côté, qui était en procès devant jury pour une histoire qui s'est passée en prison parce qu'il a menacé un gardien. Puis là, écoute, c'est tout le récit autour de ça qui, honnêtement, abracadabra.
Ben, c'est que dans un dossier de menace, c'est qu'il ne suffit pas simplement d'analyser les mots qui ont été prononcés parce que la menace est un crime d'intention spécifique. Donc, tout le monde reconnaît que Marc-Étienne Côté aurait dit à un gardien de prison « Je vais te tuer s'il faut pour avoir ma vitamine D ou ma sortie de cours. » Parce que quand il disait ma vitamine D, c'est qu'il voulait sortir dans l'après-midi au soleil plutôt que le matin avant l'aube, si on veut. Et il reconnaissait avoir prononcé ces paroles-là. Mais ce qu'il mentionne à ce moment-là, c'est que la raison pour laquelle je l'ai prononcé n'était pas dans le but d'être pris au sérieux ou de susciter la crainte, c'est que je voulais être transféré de secteur et l'agent m'avait dit, si tu veux être transféré, il faut soit que tu aies commis un geste genre d'avoir brisé quelque chose ou de nous avoir menacé. Et ce que dit Marc-Étienne Côté, c'est que c'est à ce moment-là que je lui ai prononcé ces menaces-là. Non pas pour qu'il me prenne au sérieux, juste pour qu'il puisse ouvrir le dossier pour pouvoir me transférer de secteur. Et c'est là tout le débat que le jury aura à trancher, de savoir quelle était l'intention derrière les propos menaçants, parce que tout le monde reconnaît qu'il a prononcé ces propos menaçants-là, qui sont l'essence d'une menace. Maintenant, il sera déterminé quelle était l'intention derrière, parce que l'intention requise dans un dossier de menace est l'objectif de susciter la crainte ou d'être pris au sérieux.
C'est quand même particulier. Il était en attente, donc, de son verdict de culpabilité dans son procès pour meurtre qu'il a obtenu par la suite. Donc, lui, il est en prison à vie. Il va être transféré au fédéral d'une manière ou d'une autre. Mais là, il est en prison, puis il est en procès devant jury pour de quoi qu'il s'est passé en prison, alors qu'il ne sortira pas de prison, peu importe.
Effectivement. C'est sûr qu'au final, l'effet, même s'il était reconnu coupable, là, ça n'aura pas un impact si considérable que ça. Mais puisqu'il prétend que l'objectif derrière ses propos n'était pas celui d'être pris au sérieux ou de susciter la crainte. Évidemment qu'on ne plaide pas coupable juste par commodité. Si on prétend qu'on est innocent, on fait un procès. Ce sera maintenant au jury de déterminer.
Maître Bouliane, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
8h06.
Le show du matin.